Au sommaire de cette émission, le télétravail qui a pris une dimension nouvelle et incontournable dans le paysage professionnel français depuis donc le premier confinement. C'était en février 2020. Ce mode d'organisation du travail a connu une évolution significative qui s'impose comme une alternative au travail présentiel 4 ans plus tard. Et bon, on va faire un état des lieux ce soir, dresser un bilan de cette pratique et d'en comprendre bien entendu les enjeux futurs. Le télétravail est-il vraiment efficace? On va en parler avec nos invités. Éric Gras, qui est avec nous, spécialiste du marché de l'emploi Indeed France. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alexis Gache, responsable commercial Europe du Sud d'Altaciane. Bonsoir, merci d'être là. Et Olivier Pouet, et qui est avocat, spécialiste du droit du travail. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi.
Les vraies voix Sud Radio.
Avec peut-être Nicolas Leroy, un état des lieux, finalement avec Olivier Pouet qui est avec nous. Pouet, on dit bien Pouet, hein.
Pouet,
voilà, c'est ça. Avocat spécialisé du droit du travail, pour que tout le monde soit à peu près au même niveau. Aujourd'hui, que dit ce code du travail sur le télétravail?
Alors, il dit pas grand-chose, puisqu'il y a 3 articles seulement dans le code du travail qui est sur le télétravail. Donc, après, c'est justement un petit peu la difficulté pour les entreprises, parce que
C'est à l'appréciation de chacun.
Bon, il faut que ça soit sur la base du volontariat. Après, c'est ce qu'on nous dit, si vous voulez, c'est que en fait, c'est une modalité de travailler avec des outils d'information et de communication. C'est ça, en fait, le télétravail. Et après, sur le lieu, en principe, on raisonne toujours par rapport au domicile, mais ça peut être aussi un tiers lieu. Là, on fait du coworking. Mais donc c'est ça, le télétravail, c'est ne pas travailler dans les locaux de votre entreprise
pendant X jours par semaine.
Voilà,
en fonction
c'est ça.
D'eux.
Voilà, c'est ça. Sur la base du volontariat.
Alors le télétravail, il y a 4 ans, je me souviens, Cécile m'avait invité sur le plateau. J'avais fait preuve, mais une petite réticence sur le sujet. À l'époque, c'était assez ringard. C'était censé être la nouvelle forme de travail. On voit maintenant que tous les boîtes un peu branchées comme Facebook, Apple, tout le monde revient en arrière. Et donc Amazon a fait ça a annoncé en fait qu'ils arrêtaient. Donc maintenant on peut se poser la question de l'avenir du télétravail. Donc c'est un peu la question. Je crois que vous êtes tous des avis un petit peu divergents sur la question. Il y en a qui sont plutôt pour, plutôt contre. Donc c'est ce qui va être intéressant de savoir. Alors peut-être Éric Gras, vous êtes Indeed, donc vous êtes vous-même. Je crois que vous utilisez le full télétravail.
Toute forme de télétravail.
Ouais. Quelles sont les attentes aujourd'hui des candidats par rapport au télétravail? Est-ce que finalement tout le monde a envie d'être en télétravail, ou est-ce qu'au contraire, comme les entreprises, les candidats reviennent un peu en arrière?
Alors oui et non. En fait, on fait souvent l'amalgame. Quand on parle de télétravail, on a l'impression que c'est full télétravail pour tout le monde. Donc des gens qui bossent dans des startups et qui vont être dans le sud de la France pour pas aller dans les bureaux à Paris, voire aller bosser à Minorque, à Minorque, etc.
Ils sont tous chez eux, derrière leurs ordi.
Exactement. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est beaucoup de gens, par exemple en région parisienne, qui habitent suffisamment loin pour faire une heure et demie de transport le matin, une heure et demie de transport le soir. Et le Covid a été un révélateur de ça. On s'est dit du jour au lendemain... En fait, je peux être beaucoup plus efficace, je peux m'organiser autrement. C'est pas le cas pour tout le monde, hein, parce que tout le monde n'a pas le même confort de vie et la possibilité d'avoir un bureau chez soi. Mais c'est la réduction d'abord du temps passé dans les transports, donc du temps inefficace et inutile à titre perso et à titre professionnel. Donc la très large majorité, c'est ça. Et donc, c'est avec des doses de télétravail différentes selon les gens. Il y a des gens qui ont besoin que d'un jour ou deux jours de télétravail.
Mais justement, pour éprouver cette forme de travail, est-ce qu'il faudrait pas voir le cas critique, à savoir de vous n'êtes pas du tout en télétravail ou 100% en télétravail? Parce que moi, les candidats me disent tout, je veux 1-2 jours. Ouais. C'est ce que j'appelle la souplesse.
Est-ce moi, j'aimerais bien avoir 7, mais c'est pas possible.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un retour sur les candidats qui font vraiment 100% en télétravail?
Il y en a, mais c'est Ypsilon. C'est pour ça, c'est 0,3% des offres où il y a 100% de télétravail. Par contre, c'est à peu près 1% des offres, du global des offres. Hein, donc, il y a à peu près 1 million d'offres d'emploi. Je vous remets en perspective. Donc, ça fait à peu près 100 000 jobs en permanence qui proposent du télétravail, avec une dose de télétravail qui va de 1 à 3 jours en moyenne. Donc, ça dépend des activités, ça dépend des métiers, ça dépend des profils. Les jeunes sont ceux qui souhaitent le moins de télétravail, par exemple. Un jeune qui prend son premier emploi demande, et notamment pendant la période du Covid ou post-Covid, juste après le Covid, c'est eux qui réclamaient le plus de présentiel parce qu'ils avaient besoin aussi d'apprendre des autres et de se nourrir de la culture de l'entreprise.
Alors revenons déjà à la culture de Indeed. Vous êtes une plateforme, en tout cas, qui favorise, qui met en relation et qui favorise justement tous ces métiers en télétravail. Mais tous les métiers ne peuvent pas être en télétravail. C'est là que le problème, le bât blesse, si j'ai envie de dire.
Oui, tous les métiers ne sont pas télétravaillables. Donc c'est vrai qu'entre l'attente des candidats et la culture aussi de certaines entreprises, même quand des métiers sont télétravaillables, ça fait une vraie différence en termes d'attractivité selon les entreprises qui proposent ou non du télétravail ou selon la dose de télétravail proposée. Après, il y a une réalité d'aujourd'hui qui va s'accentuer demain, c'est la pénurie de compétences. Donc on a historiquement l'habitude de recruter des candidats à proximité de chez soi. Mmh. Et donc parfois, il y a un talent qui habite plus loin. Et donc lui demander de déménager, on sait à quel point aujourd'hui vendre sa maison, acheter une nouvelle maison, trouver un crédit, même quand on est deux à travailler.
C'est pas le moment.
C'est compliqué. Quand on déménage son conjoint, ses enfants aussi. Donc recruter quelqu'un qui n'existe pas sur mon bassin d'emploi, mais qui existe ailleurs, le télétravail peut répondre à ça. Donc est-ce que c'est vraiment indispensable d'avoir un collaborateur avec cette culture du présentiel 5 jours par semaine chez soi? Pour certains métiers, c'est indispensable. Pour d'autres, ça l'est pas forcément.
Comment on peut évaluer le problème de se dire que certains on est obligé d'être en télétravail, d'autres ne peuvent pas. Comment on le gère dans une entreprise? C'est très compliqué parce que je le disais tout à l'heure, il y a quand même pas mal de métiers qui ne sont pas télétravaillables. Et comment ça se gère?
Alors, ça va dépendre un peu de la taille de l'entreprise, mais lorsque vous avez une entreprise avec des partenaires sociaux, soit on va faire des accords avec des salariés, ce qu'on appelle éligibles. Donc, il y a un certain nombre de postes où on pense que c'est télétravaillable. Et selon les types de postes, on va dire, ce sera un jour par semaine. Généralement, c'est comme ça que ça se passe au sein des entreprises.
Mais la compensation pour les autres, c'est quoi? Pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler, est-ce qu'il y a une compensation, justement?
Aucune compensation. On parle toujours des cols blancs et des cols bleus. C'est-à-dire, en fait, en effet, c'est les cols bleus qui ne pourraient pas travailler, et puis les cols blancs qui, eux, auraient cette chance, on va dire. Ça, en effet, c'est pour les directeurs de ressources humaines, c'est un questionnement. Mmh. Je pense que ce qui est important de dire par rapport au télétravail, c'est que c'est quelque chose qui est très récent. Avant le Covid, des personnes télétravaillaient.
Ça veut dire qu'il faut les prouver.
Mais c'était epsilon. C'était très peu. Tout d'un coup, là, avec le Covid, on a une généralisation. Bon, évidemment, pas les cols bleus, mais quand même, beaucoup, beaucoup de personnes télétravaillent. Et pour l'instant, les retours d'expérience sont quelques années. Donc, il faut, dans 5 ans, on aura une autre encore vision du télétravail.
Justement, ça crée pas des tensions sociales entre les gens qui peuvent télétravailler et ceux justement qui ne peuvent pas. Est-ce que finalement le garagiste de Normandie qui voit arriver le cadre qui est dans sa maison de campagne, est-ce que ça une séparation en fait sociale entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas, notamment au sein des entreprises?
Alors hier j'étais dans une entreprise pour une formation de manager. Vous aviez des personnes, il y avait quelqu'un qui s'occupait du service technique. Mmh. C'est dans le logement social. Lui, son équipe, évidemment, ne peut pas faire télétravail. Il se pose pas la question. J'avais des responsables de secteur. Mmh. Et les parents sociaux avaient décidé que ils seraient dorénavant éligibles au télétravail. Et il y a une discussion qui s'est installée sur, en effet, le rapport de confiance. Parce que il y avait leur directeur qui était là. Et savoir quelles sont les missions qu'ils pouvaient faire en télétravail ou pas, sachant que c'est des personnes qui peuvent être sollicitées à tout moment. Mm-hmm. Donc c'est vrai que c'est là où ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, pas ceux qui, manifestement, un travail qui ne peut pas être télétravaillable, mais ceux qui sont à la frontière, à la limite, et dans quelle proportion, éventuellement, ils peuvent télétravailler. C'est là où on peut avoir des zones de
friction. Des zones grises. Allez, vous restez avec nous. On va faire une petite pause. On revient dans un instant. Alexis Gachera avec nous, responsable commercial Europe Sud de Altation, un éditeur australien de solutions collaboratives. Et il nous expliquera aussi comment ça se passe et comment faciliter justement le télétravail. On en parle dans un instant. À tout de suite. du marché de l'emploi chez Indeed France. Alexis Gache, responsable commercial Europe Sud Altation. On va découvrir en tout cas ces belles entreprises dans un instant. Et puis Olivier Pueyck, avocat spécialiste du droit du travail. Alors, tout à l'heure, Eric Gras, on évoquait effectivement le télétravail. Indeed, très très grosse entreprise, un petit peu partout dans le monde. Votre cœur d'activité aujourd'hui, c'est quoi ? L'emploi, mais des filières, c'est quoi ?
C'est rapprocher l'offre et la demande avec de la techno. En gros, donc ça paraît très simple, mais c'est extrêmement compliqué, parce que les attentes des entreprises et les attentes des candidats sont rarement les mêmes.
Oui.
Et donc, on fait du matching, et donc dans le matching, il y a des choses très évidentes.
C'est le Tinder de l'emploi.
Ouais, un peu plus subtil que ça. parce que Tinder est quand même assez discriminant dans les choix qu'on fait.
Bien sûr.
On se base sur des choses discriminantes, à savoir le CV.
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous avez tel diplôme, etc. Mais on va se baser aussi sur tout un tas de choses beaucoup plus intuitives. Donc, on va aller au-delà du CV. On va se baser sur les recherches des candidats. Et on va aller au-delà de l'offre d'emploi aussi.
Quand vous dites au-delà des compétences, c'est quoi ? C'est les soft skills, les choses comme ça ?
C'est ça, oui. Exactement. Et notamment, il y a un des combats d'Indeed aujourd'hui, c'est de proposer, d'essayer de recruter des gens sans CV, voire pas par rapport au diplôme.
C'est-à-dire
qu'on peut très bien avoir des compétences qui ne sont pas liées à un diplôme ou une école. C'est une des discriminations les plus répandues. Alors autant pour certains métiers, c'est indispensable d'avoir tel diplôme qui nécessite que ça amène à telle compétence. Autant pour plein d'autres choses, on peut avoir de l'expérience qui valide ça. Hein. Mmh. Donc on essaie de lutter contre tous ces biais. Et donc ça nécessite beaucoup, beaucoup de données. Et donc on fait ça dans 60 pays, 28 langues.
Alors, j'ai vu ça, 28 langues. Il n'y a pas de langage universel chez Indeed ?
Non, il faut s'adapter à chaque langage, mais aussi à chaque culture.
Mmh.
C'est-à-dire que il y a des pays qui sont beaucoup plus ouverts que d'autres dans la façon de recruter. Le marché de l'emploi n'est pas le même dans tous les pays. Si on prend juste notre voisin allemand, par exemple, qui est dans une situation de plein emploi depuis beaucoup plus longtemps, il recrute de façon beaucoup plus inclusive que les Français. L'alternance, qui est un vrai sujet, ils sont très en avance sur la France.
Mmh.
Par dépit, parce qu'en fait, il y a tellement peu de compétences disponibles qu'ils sont obligés de recruter différemment.
Et on verra justement si ce télétravail dans 60 pays est la même façon, en tout cas la même gestion. Alexis Gache qui est avec nous, responsable commercial Europe Sud d'Altatian. Altatian, c'est un outil finalement aujourd'hui pour l'emploi.
Alors Altatian, c'est un éditeur de logiciels qui existe depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Les deux fondateurs sont deux Australiens. Ils sont toujours à la tête de l'organisation d'ailleurs. Et dont la mission est principalement d'aider à rapprocher les équipes en fournissant une plateforme de collaboration, on va dire. Donc vous retrouvez maintenant nos outils dans, je crois qu'on a 300 000 clients environ. Si vous prenez le CAC 40, tout le monde est client de ces solutions-là. Et notre ADN, c'est réellement ça, c'est d'arriver à faire collaborer, on va dire, chercher le terme, ces différentes équipes au sein de l'organisation. Donc on a joué un rôle, entre guillemets, important pendant le Covid, hein, puisque le fait de plus pouvoir aller au bureau pour certains de nos clients les a amenés à plus utiliser ces plateformes d'échange et de collaboration.
Ça a duré combien de temps à ce moment-là, entre le moment où forcément la rupture du Covid et la mise en place du télétravail, on a fait appel, j'imagine assez rapidement à vos services. Ça a été long à mettre en place, ça a été compliqué.
Non, je pense pas que ça a été compliqué. On avait déjà un grand nombre de clients consommateurs de ces produits. On va dire que ça a joué comme un accélérateur ou un effet de levier. Donc ça a plutôt augmenté l'usage des outils et maintenant c'est pour certaines organisations rentré dans l'ADN de ces entreprises. Je pense que les modes de collaboration et d'échange ont beaucoup évolué et le Covid n'a fait qu'accélérer ce mécanisme-là. On parle souvent de travail asynchrone par exemple. Vous savez que on parle souvent de productivité qu'on associe au télétravail. Je pense que le mal principal qu'on trouve dans les organisations, c'est quand même le nombre de réunions qu'on est amené à faire. Je pense que là, c'est pour le coup, ça tue un peu la productivité. Et donc, on essaye de mettre en place des mécanismes de collaboration qui se veulent asynchrones. Dit différemment, je vais travailler en amont sur un certain nombre de choses et ensuite, je vais partager. La réunion a vocation à valider. Elle doit durer 10-15 minutes.
Justement, est-ce que vous avez senti un vrai boom du télétravail ou est-ce que vous étiez déjà, vos clients étaient déjà des utilisateurs ou est-ce qu'on vous a sollicité subitement ou est-ce qu'il y a eu une montée de charge violente ou au moment du Covid?
Violente, non, mais il y a eu une augmentation de l'usage des outils indéniablement. Après, le télétravail tel qu'on l'a perçu chez nos clients, et je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais il y a plusieurs formes de télétravail, hein, des gens qui sont 100% télétravail comme Altatian, c'est notre mode de fonctionnement. On ne le retrouve pas dans les grosses organisations du CAC 40 en France, où on trouve plutôt un modèle hybride avec quelques jours quelques jours à la maison et quelques jours au travail.
Vous êtes 100% télétravail dans tous les pays.
Alors, on a quand même des bureaux. On a 13 bureaux dans le monde. On est, pour vous donner un ordre d'idée, on doit être 12 ou 13 000 collaborateurs dans le monde.
Mais il y a un fauteuil.
Il y a un très grand fauteuil quand même. Donc on se retrouve avec 13 bureaux, je crois, dont un en Europe qui est à Amsterdam. Il n'y a pas de bureau physique à Paris. Et l'ensemble des collaborateurs en France travaille de chez eux.
Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que le télétravail, il y a toujours cette réflexion de dire la cohésion d'équipe, la machine à café, où on arrive à résoudre des choses. Voilà, comment ça se passe chez vous ?
Alors il y a plusieurs. La cohésion d'équipe, elle existe parce qu'on a quand même un certain nombre de points de synchronisation et on est amené à travailler ensemble. Donc c'est vrai qu'on a été consommateur des outils de vidéoconférence comme Zoom par exemple.
Mais ça veut dire que vous n'allez jamais au bureau ?
Alors ça peut m'arriver. En revanche, mais ça m'impose d'aller à Amsterdam, donc ça s'organise. Ouais. En revanche, je pense qu'il m'arrive un peu plus fréquemment, c'est quand on décide de réunir nos collaborateurs et donc on va louer de manière très transitoire quelques mètres carrés sur Paris ou ailleurs. Mm-hmm. Et là, on peut réunir un certain nombre de collaborateurs. Donc, je dis pas qu'on se l'impose, mais on pense que c'est nécessaire. C'est-à-dire que tous les 3 mois environ, moi, je vais réunir mes équipes. On travaille sur un certain nombre de sujets. Généralement, on finit au restaurant. Enfin, on crée quelques moments de cohésion. Et on repart travailler chacun dans son lieu de prédilection, souvent sa maison.
Alors, moi j'avais une question, c'est comment vous faites pour les jeunes, parce qu'on disait tout à l'heure que les jeunes sont ceux qui rejettent presque plus le télétravail. Comment on fait pour intégrer des jeunes collaborateurs, je pense notamment des alternants. Moi j'en ai vu qui passaient d'alternance dans des boîtes, ils n'ont jamais mis les pieds dans la boîte. Ouais. Donc aujourd'hui, comment vous créez justement, on va dire une ADN d'entreprise et que vous la transmettez notamment aux jeunes collaborateurs.
Alors, je pense que on avait une discussion en off sur pour moi le télétravail ou le fait que ça fonctionne pas dans certaines organisations, c'est souvent un symptôme. Hein. C'est-à-dire que si on gratte un peu et qu'on regarde, on va s'apercevoir qu'il y a un mal plus profond dans l'organisation.
C'est un peu dur pour Amazon. Quand
même. Alors, je connais pas le contexte Amazon, mais il faudrait regarder plus en détail. Mais je les connais pas suffisamment bien pour m'exprimer sur le sujet. Mais en revanche, nous on essaie de définir des objectifs qui sont relativement clairs. Je pense que le management joue un rôle essentiel dans la mise en place de cette cohésion-là et dans la définition des objectifs. Si vous n'êtes pas précis dans ce que vous demandez, ça va être compliqué d'obtenir des résultats. Et ça fait partie des éléments, à mon avis, sur lesquels il faut travailler. Si vous considérez qu'en télétravaillant, on n'est pas productif, probablement que le problème est ailleurs.
C'est pas ce que je dis. C'est vraiment, justement, comment on voit des jeunes collaborateurs rentrer. Vous êtes obligé de leur donner un peu les codes de l'entreprise, l'ADN. Je parle pas vraiment d'objectif. D'accord. Je parle vraiment d'ADN d'entreprise. C'est vraiment le principe.
Former, quoi.
Voilà, même les former.
Sentiment d'appartenance, en fait.
Si vous recrutez un cadre qui connaît déjà son job, on va dire, il va pouvoir se développer. C'est plutôt dans la montée en compétences, notamment des jeunes, que moi, j'ai la principale grief envers le télétravail.
Après, j'ai pas dit que les jeunes ne voulaient pas télétravailler.
Moins, vous avez dit.
Non, eux, ils veulent tous du télétravail. C'est considéré comme un acquis pour les jeunes générations. Par contre, la dose de télétravail, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on parle de télétravail. Et je disais tout à l'heure, il y a le full remote, le 100% télétravail et la dose de télétravail. Là, il y a beaucoup de débats sur la dose de télétravail. Ubisoft, par exemple, veut passer de 5 à 3, etc. Donc, il y a des nuances par rapport à ça. Et on est passé d'un extrême à l'autre. C'est exactement ce que tu disais avant. Avant le Covid, pour plein d'entreprises, le télétravail, c'était un souhait des salariés, mais ça n'existait pas. Donc, ça a été imposé à marche forcée. Et tu l'as souligné à juste titre, le vrai problème, c'est le management. Les managers ont été habitués à accompagner, à former, à manager en présentiel. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés à manager une équipe derrière les écrans. Et donc, c'est une nouvelle compétence. Et quand après, tu arrives sur un modèle hybride, il y a des collaborateurs tout à fait capables de gérer l'hybride, d'autres qui sont pas capables. Donc, ça demande un travail d'accompagnement de la part des équipes, voire des réajustements. De la part de ces entreprises.
La question qui a été posée, je pense qu'elle est très importante. Pour les jeunes, c'est plus compliqué. On va être très clair. C'est-à-dire que si vous avez 40 ans, vous avez déjà votre famille et une maison, c'est plus simple de faire du travail que si vous en avez 20 et que vous intégrez une nouvelle équipe pour laquelle vous connaissez ni les codes, ni le mode de fonctionnement. Nous, on a un processus d'onboarding, enfin d'intégration dans l'organisation qui est relativement long et qui a justement vocation à essayer d'introduire, alors de manière virtuelle, clairement, mais ces nouveaux collaborateurs auprès des autres collaborateurs de l'entreprise. On a des modes de fonctionnement qui nécessitent de pousser et de forcer un peu sur cette collaboration initialement. Sinon, vous restez tout seul à la maison.
Allez, vous bougez pas, on revient dans quelques instants et on approfondira justement sur cette jeunesse. Est-ce que effectivement c'est compatible, en tout cas avec ces nouveaux modes de fonctionnement. On en parle dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud. Indeed France, vous avez forcément entendu parler de cette grande entreprise présente dans 60 pays dans le monde. Alexis Gache, responsable commercial Europe Sud d'Altasian. À peu près, on a dit combien, 30 000 clients?
300 000.
300 000, pardon, je vous ai enlevé un zéro, c'était qu'un zéro, hein, c'est ouais, pas non plus.
Ça va passer à 3 millions.
Mais ça va venir, vous allez voir. Et Olivier Pouey qui est avec nous, avocat spécialiste du droit du travail. On évoquait il y a quelques instants Nicolas Leroy sur différence de génération et l'adaptabilité de certains. Est-ce que, franchement, Nicolas Leroy, est-ce que tout le monde est capé pour faire du télétravail et savoir s'autogérer?
Alors moi je pense que justement sur les jeunes, il y a cette importance de la transmission et donc d'être au bureau et d'être au minimum au contact de son manager. Après on peut parler des grands cabinets de conseil qui, notamment en stratégie, qui travaillent très tard la nuit, qui sont dans des petits appartements parisiens et qui eux étaient dans des beaux locaux sur les Champs-Élysées avec des beaux restaurants. Ceux-là on leur a enlevé tout, on va dire, le paquet cadeau qui faisait l'aspect sympa du job.
Et la magie.
Et quand vous vous retrouvez effectivement dans votre deux pièces dans Paris à travailler jusqu'à 2h du matin, ces candidats-là, eux, vous disent plus jamais de télétravail. Donc c'est qu'aujourd'hui, chez les jeunes, il y a un vrai sujet. Alors après, effectivement, si vous êtes un cadre supérieur, que vous avez une maison au Cap Ferré et que vous avez la possibilité de travailler dans de superbes conditions, c'est sûr qu'il y a une différence et sociale, je pense, et générationnelle dans l'approche du télétravail. Moi, c'est ma vision et c'est celle que je constate avec les candidats. Donc je sais que sur le plateau, nous ne sommes pas tous d'accord sur les bienfaits du télétravail. Et puis, il y a un lien sens quand même social avec l'entreprise qu'il faut connecter. Moi, j'ai une DRH qui m'a dit, on a perdu un salarié, on s'est rendu compte depuis 2 mois, il n'était pas connecté. Alors, ça pose la question, comme vous disiez...
Est-ce qu'il aurait travaillé pour autant au bureau
du management, mais aujourd'hui, je pense que...
L'image idyllique du télétravail... Je pense que c'est important quand même aussi de dire une certaine réalité. Quand un salarié est en télétravail, il y a certaines entreprises où il faut qu'il soit derrière son ordinateur. Et s'il s'éloigne pendant 2 minutes, hop, le compte s'arrête. Voilà. Alors c'est vrai que ça correspond à la réglementation, hein, puisque l'employeur a les mêmes obligations que quand le salarié est au sein de l'entreprise. Il doit être capable de connaître les horaires de son collaborateur. Alors ça pose, c'est plus compliqué pour celui qui est en forfait jour. Et donc c'est vrai, est-ce que ce salarié qui se retrouve en fait tenu par son ordinateur, est-ce que le télétravail, c'est
ça,
vraiment...
C'est un peu hard quand même.
Oui, mais c'est ça.
Non, mais
dans des entreprises,
Le vrai souci,
d'entreprises aujourd'hui, de taille certaine, je ne dirais pas, peut-être moins dans les PME, mais quand vous arrivez dans les grandes entreprises, c'est ça.
Le vrai souci ou la clé, c'est la confiance, en fait. On en revient aux jeunes générations. Les jeunes générations ont ceux qui ont le plus mal vécu, justement, le télétravail au moment du Covid. Ce qui se disait, en fait, j'ai une messagerie instantanée, par exemple, si je m'octroie, entre guillemets, une heure, mais pas la bonne heure, ou je sais pas, je suis aux toilettes au moment où mon patron m'envoie un message et que je mets 3/4 d'heure à lui répondre, potentiellement, il va dire que je suis pas là, que j'étais pas en train de travailler, comment il va l'interpréter? Et donc, notamment les jeunes qui ont besoin de faire leurs preuves vivaient très mal ce début de télétravail. Et donc, la clé, c'est la confiance. Et donc, la confiance, on la donne par défaut quand on fait du télétravail en disant, je pars du principe que t'es 2 jours chez toi. Il y a la confiance s'exclut par le contrôle, donc il faut valider un certain nombre de choses, mais ça nécessite de travailler en confiance. Donc c'est un nouveau mode de management et de travail.
Ça c'est plus simple quand vous embauchez des gens, il y a ce qu'on appelle le savoir-être, et là on découvre les gens. Mais ce qui est difficile, c'est des entreprises qui sont staffées depuis des années avec des gens qui sont là depuis des années, et c'est de les emmener dans la transformation. C'est là que c'est plus compliqué, non?
Ouais, mais ces organisations-là aujourd'hui, elles sont plutôt en mode hybride, hein. Et c'est généralement un choix et des accords qui ont été négociés avec les représentants du personnel. Donc c'est un cas différent, je trouve. Moi, si je reviens au cas Atlassian, c'est vrai que ça fait partie de l'ADN. Donc moi, quand j'embauche quelqu'un, je lui explique très rapidement qu'il sera en télétravail. Est-ce que ça vous intéresse? Oui ou non? Après, je peux vous expliquer comment on sociabilise dans la boîte, mais vous serez en télétravail. En revanche, ça m'ouvre des possibilités dont on n'a pas parlé, qui est ma capacité à embaucher n'importe où. Avant, il aurait fallu embaucher à Paris. Par un intramuros, avec toutes les contraintes que ça peut avoir, tout le monde n'a pas envie de vivre à Paris, mais les boulots sont à Paris. Moi, dans les équipes, j'ai des Bretons, des Toulousains, des Bordelais, enfin, il n'y a pas de contraintes, le champ des possibles est illimité quasiment. La seule chose qu'on a, et ça c'est un sujet juridique, c'est que les collaborateurs doivent être en France au moins plus de 3 mois contigus, enfin quand ils partent, ils peuvent pas partir plus de 3 mois contigus dans un pays européen. Qui nous pose problème pour certains collaborateurs. Donc,
alors justement, j'avais une question pour Olivier, justement, quid en fait de la réglementation par rapport aux gens qui décident de télétravailler depuis l'étranger sans en informer leur Employeur.
On a une décision il n'y a pas très longtemps. C'est une personne qui était partie télétravailler au Canada, qui a été licenciée pour faute grave par son employeur. Et c'était validé par la Cour de cassation. Avec juste raison, parce qu'elle fait courir des risques considérables à son employeur. Au niveau du régime fiscal, social, autorisation de travail, problème du RGPD. Il y a donné des clients. Vous faites courir à votre employeur des risques énormes.
Alors c'est quelque chose qui se développe plus, beaucoup.
Simple au sein de l'Union européenne. C'est un peu plus simple au sein de l'Union européenne, puisque bon, la réglementation sur les données personnelles est européenne, et puis au niveau social, on a une harmonisation. Mais ça reste quand même compliqué avec des risques, si vous avez un accident du travail.
Tout ça n'est pas simple. Je rebondis sur ce que vous dites. Pourquoi plus de 3 mois ou moins de 3 mois?
Non, c'est juste la réglementation d'un point de vue fiscal, c'est tout. Si.
D'accord, ok.
Parce qu'après, vous êtes imposé dans le pays où vous travaillez. S'il faut que ce qu'on appelle le centre des intérêts vitaux soit dans le pays. C'est ça qui va être servi de référence. Et généralement, alors à la limite, c'est plutôt 6 mois. Je pense que vous avez fait 3 mois parce qu'en effet, pour pas être sur une frontière qui pourrait être complexe, quoi.
Il pourrait y avoir des effets de bord. Hein. Vous êtes salarié à Paris, vous habitez à Lisbonne. La vie à Lisbonne est quand même moins onéreuse qu'à Paris, donc il faudrait que le salaire soit
mis. C'est parfois le problème, c'est que c'est plus ou moins imposé par le collaborateur. Je suis en vacances justement, je pense à un dossier au Portugal, et puis je prolonge mes vacances en fait. Et puis le manager dit oui, quoi.
Mais Alexis Gache, comment vous gérez les horaires de... Est-ce que vous avez des horaires de travail? Est-ce que vous... Comment ça se gère, en fait?
Non, officiellement, il n'est pas écrit dans le contrat de travail qu'on doit commencer à 8h ou 9h et finir à 18h. Mais je reviens sur ce qui était dit. Pour moi, l'élément qui est essentiel, on parle de confiance, mais on devrait aussi parler de la définition des objectifs. Qu'est-ce qu'on attend des collaborateurs? Moi, le fait que la personne arrive à 6h du matin ou qu'il parte à 4h... Ça m'importe peu. Le vrai sujet, c'est est-ce que le job qu'on lui a demandé de faire est réalisé. C'est ça la seule... Après, moi, il gère... Mais je fais la même chose. Je prends mes rendez-vous médicaux dans la journée. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. En revanche, on est d'accord sur l'objectif à atteindre et la date à laquelle on l'atteint. Et ça, c'est essentiel. Et c'est le seul point qu'on va...
Peu importe comment on y arrive, du temps qu'on y arrive.
Les risques juridiques, j'espère que ça ne vous arrivera pas, mais sont énormes. C'est le collaborateur. Et puis après, demander un rappel d'heures supplémentaires... Vu que la charge de la preuve est partagée en France, il peut très bien faire un agenda reconstitué en disant « je travaillais 12 heures par jour ».
Alors nous on est au forfait cadre, on n'a pas d'horaire imposé. Par contre, on signe nos heures, donc on déclare nos heures toutes les semaines ou tous les mois à minima. On a des enquêtes régulières où on dit justement est-ce que l'équilibre vie pro-vie perso est respecté. D'ailleurs, juste après le Covid, nous, on avait un excès de productivité parce qu'à ne plus pouvoir déconnecter ta maison et ton bureau et ta maison. On a des gens qui étaient limite en surchauffe. Et donc, il fallait réguler ça. La règle de base, c'est en effet la confiance, d'une. Et de deux, c'est que le travail doit être fait en confiance et en équipe. Donc, après, tous les métiers ne sont pas télétravaillables à 100% de cette façon-là. C'est aussi une question de maturité et parfois d'accompagnement.
On en parlera dans quelques instants. On fait une petite pause, bien entendu. C'est votre pause syndicale. Vous pouvez boire un petit café, si vous voulez. Avec Nicolas Leroy, qui est avec nous, et Eric Gras, spécialiste du marché de l'emploi, Indeed France, et Alexis Gache, responsable commercial Europe du Sud et d'Altacian. Et puis Olivier Pueil, qui est avec nous, avocat spécialiste du droit et du travail. On revenait sur un mot, il y a quelques instants, sur le mot confiance. La confiance, effectivement, lorsque vous faites du télétravail, en vos collaborateurs ou en tout cas en vos équipes, quand vous êtes un manager. Eric Gras, c'est quoi la confiance en fait? Elle démarre où? Elle s'arrête où? Parce que le niveau de confiance, c'est très flou en fait.
Ça se gagne. Alors je dis toujours qu'il faut un cadre en fait. Si on fixe un cadre dès le début et que les règles sont claires et qu'on laisse de l'autonomie aux collaborateurs, ça fonctionne. Mais en effet, il faut un certain cadre, donc un certain niveau de contrôle. C'est pas tu viens quand tu veux, tu pars quand tu veux, tu fais ce que tu veux, peu importe les résultats. Il faut qu'il y ait des résultats. Et on parlait tout à l'heure du travail asynchrone. Même à l'époque du présentiel, on voit que tous les collaborateurs n'ont pas la même capacité à s'organiser. Il y en a, ils vont rester 10 heures au bureau pour avoir le même niveau d'efficacité que quelqu'un qui est capable de le faire en 4 heures. Mmh. Et donc, est-ce que la personne qui est capable d'être efficace en 4 heures, on va l'obliger à rester 10 heures en présentiel? Donc, c'est là le niveau de confiance. Et c'est de dire, pour certains métiers, c'est peut-être plus facile que pour d'autres, c'est tu dois atteindre tes objectifs. Quels sont tes objectifs? Est-ce que ton travail est important vis-à-vis de l'équipe? On parlait tout à l'heure de la machine à café pour certains métiers. Il y a besoin d'échanges. Qu'est-ce que tu apportes au reste de l'équipe, etc. Mm-hmm. Et si la personne sait le doser efficacement, que t'as pas besoin de lui dire et que ça fonctionne,
Est-ce que finalement, on parlait de confiance, mais est-ce que le management ne va pas devenir plus coercitif pour le télétravail? Est-ce qu'on ne va pas être obligé de mettre en place, comme on disait tout à l'heure, des messageries pour voir à quelle heure vous êtes connecté, répondre? Est-ce que finalement, on ne va pas se retrouver avec un management encore plus coercitif qu'en présentiel?
Ça dépend de la qualité, entre guillemets, du manager et de l'entreprise. Certains, c'est exactement ce qu'ils font parce qu'ils sont dans la défiance et justement pas dans la confiance.
Mais je pense que donc, c'est même contre-productif. Hein. Une fois de plus.
Mais il faut quand même contrôler.
Mais le contrôle, c'est sur les objectifs. Est-ce qu'on les a atteints? Le contrôle, il est là. Ensuite, s'il ne les atteint pas, la question, c'est comment on peut l'aider à les atteindre.
Mais vous ne regardez pas, justement, combien de temps se connectent vos salariés?
Pas du tout. Enfin, peut-être qu'ils le font, mais je ne le sais pas. Non, mais on le fait pas. En revanche, ce qu'on regarde avec beaucoup d'attention, c'est l'atteinte des objectifs, quels qu'ils soient. On est un éditeur de logiciels, donc il y a deux composantes qui sont essentielles. C'est notre capacité à délivrer nos services à nos clients, donc les vendre, dit simplement. Et la capacité à développer et innover. Ce sont les deux triggers principaux qui nous animent. On voit bien aujourd'hui si on est capable d'attirer de nouveaux clients ou d'accroître l'usage de nos produits chez nos clients, c'est que ça fonctionne. Donc l'équipe commerciale et tout ce qui va avec fait son boulot. Idem pour l'innovation. Si on est capable de délivrer, on mesure beaucoup.
En bas de la page, c'est le chiffre d'affaires, en clair.
Non, il y a le chiffre d'affaires parce qu'on est une société commerciale.
Oui, et la relation client aussi. C'est ça.
Ouais, on reste une société commerciale, bien évidemment. L'innovation est un élément est très important chez nous. Donc un des points, ça peut vous paraître bizarre, mais l'innovation passe beaucoup par le digital chez nous. Donc on a un événement qui s'appelle Spigit, où on réunit l'ensemble des collaborateurs. Chacun vient aux sessions qu'il veut. L'idée, c'est d'essayer de trouver des nouvelles idées qu'on pourrait à terme proposer à nos clients et qui se traduiraient sous forme de produits. Tout ça est fait en distanciel.
Mais justement, on dit que ça tue la créativité, le télétravail, puisqu'on ne peut pas échanger ensemble, brainstormer, si on utilise un terme un peu anglo-saxon.
Si, avec votre animal de compagnie.
Voilà, justement. Alors est-ce que justement ces écrans ne sont pas une barrière à cette créativité, quand notamment dans une société comme la vôtre?
Si on regarde comment fonctionnent les entreprises, et pas uniquement être la sienne, la plupart des organisations, elles sont pas l'ensemble de leurs collaborateurs dans un même lieu. On a toujours travaillé, prenez le CAC 40, hein, c'est très international, donc il y a toujours des équipes réparties un peu partout, et généralement l'innovation, elle vient de la fusion de ces différentes équipes et des réflexions qu'ils peuvent avoir. Dans beaucoup de cas, ils travaillent déjà en essentiel, certes dans des locaux d'une même organisation, mais répartis un peu partout en France ou sur la planète. Ça change pas fondamentalement. La question, c'est comment on l'anime, surtout.
Eric, est-ce que le télétravail est genré plus d'un côté que de l'autre? Ou aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques?
Alors, si, il y a des statistiques. Oui. Et d'ailleurs, on voit que les femmes en ont plus besoin que les hommes, parce qu'elles ont souvent une charge de travail personnel beaucoup plus importante, la charge parentale, notamment. On en revient à l'exemple du rendez-vous médical, d'un problème avec l'enfant. C'est encore très souvent la femme qui s'y colle. Et donc, quand elle a cette souplesse-là, en effet, c'est un véritable plus. Donc oui, c'est quand même genré, ça devrait pas l'être, mais ça l'est majoritairement.
Et aujourd'hui, entre la jeunesse et une génération un peu plus tardive, pour être sympa avec nous-mêmes, est-ce que on peut s'adapter facilement, même quand on a connu toute notre vie son propre bureau dans une entreprise, qui n'est plus le cas, hein, puisque vous arrivez, on l'a dit, hein, dans un bureau, c'est pas le vôtre. Je suis allée encore dans une entreprise ce matin, il y a plus de bureau, c'est-à-dire qu'on s'installe où on peut, et ça c'est compliqué. Et comment on travaille justement en entreprise pour expliquer tous ces changements dans l'emploi?
Alors, contrairement à ce qu'on pense, les seniors sont beaucoup plus souples que les juniors.
Ne regardez pas quand vous êtes seniors. Hein.
Non, je peux
regarder
les autres. Tous s'auto-regarder. Mais quand on a 50 ans, par exemple, des révolutions et des changements, on en a connu beaucoup. Quand on a 25 ans, on arrive sur le marché de l'emploi et on est arrivé avec le Covid. Donc, c'est un peu nouveau, etc. Donc c'est pas les populations les plus seniors qui ont le plus de mal à s'adapter. Par contre, j'ai du mal, moi, à opposer systématiquement les générations. Quelle que soit sa génération, quel que soit son âge, on a aussi des besoins différents. Donc je suis jeune mais je suis pas parent, ou je suis jeune et je suis parent, je vais avoir des contraintes différentes. J'ai 50 ans et mes enfants sont partis et je vis ma plus belle vie, c'est top. Ou alors j'ai 50 ans et je deviens aidant parce que je dois m'occuper de mon beau-père ou de ma belle-mère qui est malade, j'ai pas les mêmes contraintes et donc je vais avoir besoin aussi de ça. Et juste sur la situation d'aidance, peut-être que vous en reparlerez un jour dans une émission,
mais
aujourd'hui un cinquième des actifs sont en situation d'aidance, ça sera un tiers d'ici une dizaine d'années. Et donc le télétravail va être un des moyens d'avoir cet équilibre vie pro-vie perso.
D'adapter, oui, c'est ça.
Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont en situation d'aidance et qui n'ont pas la possibilité d'équilibrer ça, démissionnent par dépit.
Ah oui, d'accord.
Ah ouais, absolument.
Si on fait un peu de prospective, je me tourne vers Olivier, qui est plutôt le plus réticent peut-être avec moi avec le télétravail. Mmh. Est-ce que finalement l'avenir du télétravail, ça va plutôt être au développement, ou est-ce qu'on les PME, les autres entreprises vont plutôt suivre aujourd'hui les grands géants de la tech qui réduisent?
Moi, je pense qu'ils vont peut-être revenir un petit peu sur le télétravail dans les années à venir. Je pense qu'on aura peut-être cette tendance. Par exemple, il y a une question que je voulais vous poser. Comment vous faites un entretien de recadrage avec quelqu'un qui est à distance?
Au travers d'un canal digital, Zoom. Mmh.
Parce que c'est vrai que moi, j'ai regardé un petit peu la jurisprudence sur les accidents de travail en télétravail. Et la plupart, ce sont des accidents avec un choc post-traumatique. C'est un entretien de recadrage qui s'est mal passé avec un supérieur hiérarchique. Et derrière, la personne, bon, a mal vécu ça et déclare un accident du travail. Donc voilà, la question, par exemple, je pense, se pose sur est-ce que c'est facile ou pas en télétravail, en télétravail, de faire un entretien.
Moi, je peux, pour le coup, aller un peu dans votre sens. Il y a plein de choses, en effet, quand on travaille avec ses collègues et qu'on les voit, qui ne se disent pas et qu'on ressent. Donc ça, c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est pour ça que je parlais de compétences nouvelles tout à l'heure. Être manager d'équipe en distanciel, c'est parfois compliqué parce qu'il y a des choses qu'on ne sent pas. Et donc, c'est une compétence particulière. Et donc, il y a besoin de travailler ça. Ça se décrète pas. Donc, toutes les entreprises et tous les managers sont pas capables de travailler et de manager en distanciel.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Éric Gras, spécialiste du marché de l'emploi Indeed France. Alexis Gache, merci beaucoup. Responsable commercial Europe du Sud d'Altassian. Et merci beaucoup Olivier Pouey, qui est avocat, spécialiste du droit du travail. Et merci beaucoup Nicolas Leroy.
Merci Cécile.
On vous retrouve pas la semaine prochaine, si?
Si, la semaine prochaine.